Bonjour et bienvenue, 10h TU midi, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, les opérations militaires se poursuivent et même s'intensifient entre l'Inde et le Pakistan. Quatrième jour d'affrontement entre les deux voisins qui restent sourds aux appels à la retenue, ceux de la Chine et des États-Unis en particulier. Quatre dirigeants européens sont à Kiev, venus afficher leur soutien à l'Ukraine en guerre, ceux de la France, de l'Allemagne, de la Pologne et du Royaume-Uni. Ils exigent de la Russie un cessez-le-feu complet d'au moins 30 jours permettant l'ouverture de négociations, à suivre dans un instant. Également dans l'actualité, l'ouverture à Genève de négociations commerciales de haut niveau entre les États-Unis et la Chine. Elles sont présentées comme les plus importantes depuis que Donald Trump a déclenché la guerre des surtaxes. Exiger de la Russie un cessez-le-feu complet d'une durée de 30 jours. C'est donc le but de la présence à Kiev actuellement de quatre dirigeants étrangers venus afficher leur soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron pour la France, Friedrich Merz pour l'Allemagne, ainsi que le Britannique Keir Starmer et le Polonais Donald Tusk. Les quatre hommes ont rencontré ce matin à Kiev le président Zelensky. Ils se sont rendus sur la place centrale de Kiev, Maïdan, au pied d'un monument en hommage aux soldats tombés depuis février 2022. Les Européens sont à Kiev, petit problème de retour, fort de l'appel de Donald Trump. Le président américain presse la Russie d'accepter un cessez-le-feu inconditionnel d'une durée de 30 jours, voulu par l'Ukraine mais repoussé par Moscou. Présent à Kiev, Emmanuel Macron se veut optimiste, il pense qu'il y aura des discussions, même si le cessez-le-feu n'est pas parfait. On écoute le président français.
Moi je suis convaincu qu'on va réussir à engager des discussions. Est-ce qu'on aura un cessez-le-feu clair ? J'ai peur qu'on n'ait jamais de grande clarté, une clarté complète. Mais notre objectif, c'est de montrer l'unité Ukraine, Europe, États-Unis demain. Si on est tous engagés en disant, voilà, cette paix de 30 jours, c'est ce que vous avez dit au monde depuis des mois. On le fait, on engage les discussions. On engage les discussions directes. Ukraine, Russie, nous on est prêts à aider. Et si vraiment vous respectez pas cessez-le-feu, il y aura des sanctions supplémentaires. Je pense qu'on peut avoir un résultat.
Emmanuel Macron ce matin, chez nos confrères de BFM TV, le Premier ministre polonais Donald Tusk est l'un des quatre dirigeants qui ont fait le déplacement à Kiev. Dans 8 jours se tiendra le premier tour de la présidentielle en Pologne, pays qui a pris une place centrale dans ce conflit ukrainien. Correspondance à Varsovie d'Adrien Sarla.
C'est une journée importante qui nous attend, a déclaré Donald Tusk ce matin en quittant le train qu'il a fait arriver à Kiev. Le sommet de ce jour va une nouvelle fois permettre à la Pologne de se tenir au premier rang de cette coalition des volontaires. À la fois voisine de l'Ukraine, de la Russie et de son allié biélorusse, Varsovie est en deuxième ligne directe et soutient l'Ukraine de façon inconditionnelle depuis le début de la guerre. Car ici, on garde à l'esprit l'idée que si Kiev venait à tomber, la Pologne pourrait être la prochaine sur la liste du Kremlin. Et c'est dans ce contexte que ces derniers mois, le pays a pris la présidence de l'Union européenne, érigeant les questions de défense en tête de ses priorités. Donald Tusk et Emmanuel Macron ont même signé le traité de Nancy, qui assure un principe d'assistance mutuelle en cas d'agression. Varsovie n'hésite pas cependant à faire entendre sa voix face à Paris et Londres, hors de question pour elle d'envoyer ses troupes armées en Ukraine, que ce soit sur le front ou dans le cadre d'opérations de maintien de la paix. Elle espère surtout que les discussions d'aujourd'hui pourront aboutir sur un projet de cessez-le-feu que l'Ukraine se dit prête à respecter. Adrien Sarla, Varsovie. RFI.
Robert Fico, le Premier ministre slovaque, a été reçu hier soir au Kremlin par Vladimir Poutine. Il a repoussé les critiques en affichant sa proximité avec le président russe. L'Union européenne lui avait fortement déconseillé de se rendre à Moscou aux célébrations de la victoire sur l'Allemagne nazie. Entre l'Inde et le Pakistan, l'escalade militaire se poursuit à coups d'attaques de drones, de tirs d'artillerie et de frappes de missiles. Les deux pays se rendent coup pour coup depuis les frappes indiennes de mercredi en représailles à l'attentat du 22 avril dans le Cachemire indien. Le Pakistan aujourd'hui annonce avoir riposté à des tirs de missiles contre 3 de ses bases aériennes, dont l'une aux portes de la capitale Islamabad. Côté indien, Srinagar, la principale ville du Cachemire, a été secouée par de violentes détonations à plusieurs reprises. À l'étranger, la Chine a haussé le ton en appelant fermement les voisins à la retenue et les États-Unis ont formellement offert leur médiation. Alors que les affrontements se poursuivent, ils en sont à leur quatrième jour, les autorités indiennes préparent la population à une guerre qui pourrait s'amplifier. Correspondance à Bangalore de Combastin.
L'Inde se prépare à une longue guerre. Dans les territoires frontaliers du Pakistan, Jammu et Cachemire, Punjab, Rajasthan, des habitants sont déplacés vers l'intérieur du pays. 24 aéroports y ont été fermés, ainsi que toutes les écoles du Punjab et du Cachemire. Dans différentes parties du pays, des exercices sont proposés aux populations civiles. Simulation de coupures d'électricité, évacuation d'urgence, tests des sirènes militaires. Même la sacro-sainte Ligue de cricket a été mise en pause au nom de la guerre, qui entraîne une union sacrée à travers le pays. Le gouvernement bénéficie du soutien sans limite du Congrès, le principal parti d'opposition. Il resserre aussi son emprise sur la communication, avec l'interdiction de publications jugées contraires aux intérêts nationaux. Rien que ce vendredi, 8000 comptes X ont été fermés et le site du média d'opposition The Wire suspendu. Combastin, Bangalore, RFI.
La ville de Genève en Suisse accueille depuis ce matin des négociations commerciales de haut niveau entre les États-Unis et la Chine. Elles sont présentées comme les plus importantes depuis que Donald Trump a déclenché la guerre des surtaxes. Ses effets délétères se font sentir sur les deux premières économies et menacent la croissance mondiale. Les discussions de Genève se déroulent dans un endroit tenu secret. Face à face, le secrétaire américain au Trésor et le représentant au commerce. Et côté chinois, le vice-premier ministre et Li Feng. Hier, Donald Trump a fait un geste en suggérant de ramener à 80% les droits de douane punitifs au lieu de 145% actuellement sur les marchandises venant de Chine. Golfe d'Amérique remplace désormais Golfe du Mexique sur les cartes de Google. Le géant de l'Internet qui a suivi Donald Trump dans l'une des annonces extravagantes de son début de mandat. Au Mexique, la présidente Sheinbaum ne cache pas son agacement et n'écarte pas des poursuites contre Google. À Mexico, correspondance de Gwendolina Duval.
Google ferait du zèle et se trompe en rebaptisant l'ensemble du Golfe du Mexique, selon la présidente Claudia Sheinbaum, qui affirme que son gouvernement a fait une demande auprès du géant de l'Internet pour corriger.
Le décret qu'a émis le gouvernement américain parle du Golfe d'Amérique seulement pour la partie qui concerne les États-Unis, pas tout le Golfe, parce qu'ils ne peuvent pas s'octroyer ce droit. Il s'agit d'une compétence internationale.
Dès lors qu'il concerne plusieurs pays de la communauté internationale, un changement de nom doit être proposé et décidé au sein des Nations Unies. Le Mexique insiste donc pour que Google fasse la différence entre le golfe du Mexique et l'espace sur 22 km depuis les côtes américaines qui forment ses eaux territoriales.
Nous ne pouvons rien dire s'ils veulent changer le nom d'un de leurs États, d'une montagne ou d'un lac. Ils peuvent nommer leur territoire comme ils le veulent, mais la partie qui concerne le Mexique ne peut pas être renommée.
La chef d'État mexicaine affirme que le sujet n'a pas encore été abordé avec son voisin, alors que les deux pays sont à la table des négociations depuis des mois, notamment sur le plan économique. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Alerte aux nuages toxiques dans la région espagnole de Catalogne. Plus de 160 000 habitants de 5 communes ont été appelés par les autorités à ne pas sortir de chez eux. Un nuage de chlore s'est formé suite à un incendie dans un dépôt industriel. En football, la saison de Ligue 1, le championnat de France touche à sa fin. On joue ce soir les matchs de la 33e et avant-dernière journée. Tous les coups d'envoi à la même heure, 19h temps universel. Le Paris Saint-Germain est assuré de conserver son titre depuis déjà un moment. En revanche, le suspense reste entier pour l'attribution des places en Coupe d'Europe. Christophe Diremzian.
Six équipes en course pour deux places directes encore disponibles et un strapontin. Rarement le casting français pour la prochaine Ligue des Champions n'aura été aussi flou à deux journées de la fin. Derrière un PSG tellement peu concerné par ce week-end qu'il laisse sept cadres au repos pour laisser les doublures aller se faire les dents chez le relégué Montpellier, c'est surtout le duel Monaco-Lyon qui fixe l'attention. Les joueurs du Rocher, troisième, accueillent l'OL, septième, et sur le fil du rasoir, obligés de l'emporter pour s'accrocher à un minuscule espoir de retour dans l'élite européenne, gage de rentrée d'argent conséquente pour éloigner la menace d'une rétrogradation administrative provoquée par ses lourds déficits. Marseille, désormais adepte des mises au vert en Italie pour se concentrer davantage sur ses objectifs que sur ses querelles internes, va défendre son rôle de dauphin des Parisiens chez le barragiste Le Havre, tandis que le trio Nice-Lille-Strasbourg, à égalité de points entre la 4e et la 6e place, devra aller chercher ses points pour l'Europe à l'extérieur, respectivement à Rennes, Brest et Angers. En bas de tableau, Saint-Étienne, 17e et en grand danger de descente, lance l'opération de la dernière chance à Reims.
Christophe Diremzian, enfin en Espagne, on se prépare au Classico demain après-midi, le quatrième Classico de la saison entre le Barça, leader de la Liga, et le Real Madrid sont dauphins. Midi, presque 10 minutes ici à Paris. Très bonne journée sur RFI.